infirmiers, sages-femmes, aides-soignants, manipulateurs radio. Ils nous accompagnent dans les épreuves, mais aussi dans les plus beaux moments de la vie. À travers une série de podcasts, la Mutuelle Nationale des Hospitaliers leur donne la parole. Ces femmes et ces hommes racontent les fragments d'un quotidien au cœur de l'hôpital. Quels moments ravivent leur vocation? Quels patients les ont marqués? Bienvenue dans Histoire d'Hospitalier, la série de podcasts de la MNH, réalisée en partenariat avec Chéri FM.
Je m'appelle Esteban, j'ai 22 ans, bientôt 23, et je suis infirmier en réanimation depuis 6 mois. J'ai grandi en Guyane française, à Rémy-en-Montjoly. C'est une ville à côté de Cayenne, le chef-lieu. La Guyane, c'est au nord du Brésil, sur la côte atlantique. C'est pas une île, c'est vraiment rattaché dans les terres. C'est composé à 90% de forêts primaires. C'est l'Amazonie, quoi. C'est de la forêt tropicale. Ici, il fait très humide. Énormément de forêts, beaucoup d'animaux. C'est magnifique. C'est le plus bel endroit du monde. À l'adolescence, c'était un petit peu compliqué. À 16 ans, je suis un jeune qui est au lycée, qui a ses potes, sa vie. C'était un peu un élément perturbateur à l'école. C'était pas un endroit qui était fait pour moi. Du coup, à la maison avec mes parents, ça a donné des relations un peu conflictuelles. Moi, j'avais envie de sortir, de croquer la vie à pleines dents comme un adolescent. Et du coup, forcément, à la maison, ça se passait pas très très bien. Et en fait, je me suis dit qu'il fallait vraiment que je parte. J'ai vraiment touché à énormément de sports depuis très 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 jeune. J'ai fait de l'escrime pendant 15 ans et je m'entraînais beaucoup. J'ai toujours aimé la compétition. J'ai du coup quitté la Guyane pour aller en sport-études dans le nord de la France. Le jour où j'arrive, il faisait gris, vraiment très gris. Moi, je venais de Guyane, c'est quand même assez vert. Il y a les vents marins, il y a les chants des oiseaux en permanence. Bah, là, il y avait le chant des trains et des bus qui klaxonnent. Et l'hiver est arrivé et j'ai du coup découvert la neige. C'était quand même assez particulier. Voilà, c'est différent, mais tout a changé. La météo n'était pas la même, j'avais plus du tout le même rythme de vie, j'avais plus la même alimentation. Les discussions, même avec les gens, n'étaient pas les mêmes. C'est comme un nouveau départ. C'est un retour à zéro. J'ai un emploi du temps de lycéen normal, sauf qu'après les cours, je m'entraînais, on va dire, entre 6 et 12 heures par semaine, plus les compétitions le week-end. Le fait de partir loin de chez moi, d'arriver dans un endroit que je ne connaissais pas, où j'étais encadré en permanence, ça m'a cadré en fait. J'ai été en internat pendant 2 ans, ça m'a aussi appris à vivre là, en collectivité, en équipe, et ouais, ça a changé ma vie. Hein. À ce moment-là, j'ai 17 ans, je suis en première, je passe en terminale. Avec mes amis du nord de la France, on était en vacances. Il n'y avait pas de réseau là où on était. À un moment, j'ai réussi à capter un point de réseau et j'ai vu 20-30 appels manqués de ma mère. Et je me suis dit, oh, il doit y avoir un petit souci. Et en fait, à ce moment-là, en Guyane, il y avait un mouvement social qui s'appelait les 500 frères. Et en fait, tous les avions, tous les bateaux, toute la Guyane était complètement bloquée. Il n'y avait plus personne qui pouvait partir de Guyane ou arriver en Guyane, sauf pour urgence vitale, les évacuations sanitaires, des motifs impérieux, type décès, etc. Mes parents, eux, à ce moment-là, étaient en Guyane. Et du coup, j'appelle ma mère et elle me dit, on n'est plus à Cayenne, on est à Paris. Il faut que tu trouves le moyen en fait, d'arriver le plus vite à Paris. Et je me suis dit, mais comment c'est possible qu'ils aient quitté la Guyane et qu'ils soient arrivés donc jusqu'à Paris? Tout simplement, en fait, elle m'a pas dit pourquoi. Elle m'a juste dit, voilà, monte dans un train et viens. Puis 5-6 heures plus tard, j'étais à Paris. Et mon père, il m'a dit, bah écoute, voilà, j'ai une tumeur, je passe demain au bloc et je vais me faire opérer en urgence. À ce moment-là, vraiment, c'est un coup de tonnerre dans un ciel serein. Je le prends un peu comme, waouh, il y a quelque chose qui va changer très radicalement là maintenant. Je me dis, hein, mon père va mourir. Et j'ai pas assez profité de lui. Le lendemain, on est à l'hôpital. Mon père part au bloc. Il m'a regardé dans les yeux en me disant « Je t'aime, mon fils ». C'est la première fois qu'il m'a dit qu'il m'aimait. Et je me disais « Mais ouais, en fait, s'il m'a dit ça, c'est qu'il y avait une question de vie en jeu, ouais. La vie de mon père. » Et il descend au bloc. Moi, je reste avec ma mère dans cette chambre d'hôpital où on est tous les deux un peu perdus. C'est assez compliqué. Je pense que ça dure au moins facile 4, 5, 6 heures. Et c'est des heures qui sont interminables. Enfin, c'est 4 murs blancs, ça sent la javel. Et à mon père, entre la vie et la mort, au milieu de tout ça... Et je vois les gens travailler, je vois que ça court, j'entends des gens parler, je vois des brancards passer. Il y a beaucoup de choses qui se passent en très peu de temps, il y a du bruit. Je voyais les infirmières travailler, passer dans le couloir. C'était vraiment une découverte de l'hôpital en France. C'est un univers qui m'interpelle bien sûr parce que c'est un lieu que je ne connais pas. C'est un premier contact avec l'hôpital. Pendant l'opération, il y a une ablation de tumeur. Ils ont retiré la tumeur qu'il y avait. À ce moment-là, c'est les seules infos qu'on sait, c'est qu'on a retiré la tumeur. Il est resté longtemps au bloc. Mais il est remonté du bloc opératoire dans son lit d'hôpital. Il avait de la bétadine partout. C'était assez impressionnant. Il y avait des perfusions. Il y avait des fils de partout. Moi, à l'époque, je comprenais pas du tout à quoi ça servait. Mais lui, il rigolait, il faisait des blagues. Même s'il dort à moitié, qu'il est sous morphinique et qu'il est pas dans son état à 100%, du coup, ça m'a quand même vachement rassuré sur le fait que bon, ok, il est en vie, il va bien, tout va bien. On a passé le plus dur. Et donc à ce moment-là, je retrouve mon père, il sortait du bloc, il va bien. Peut-être 2 ou 3 semaines plus tard, il fait des examens. Il y a son chirurgien qui lui dit en fait la tumeur était métastasée. Et là, on partait sûrement sur un bloc de 9 mois de chimiothérapie. Et mon père m'annonce ça en me disant que je ne vais pas rentrer tout de suite en Guyane, je vais rester en métropole pour pouvoir faire la chimio. Au début, j'accompagne mon père de ce que je peux, mais voilà, il est très secret, il fait ses choses un peu dans son coin. La première chimio, je n'ai pas trop de nouvelles, je ne sais pas trop comment ça se passe. Et je reviens un week-end en fait, sur Paris pour le voir. Et là, je le trouve vraiment... J'ai jamais vu mon père comme ça. Mon père a toujours été quelqu'un d'assez en forme, a toujours bougé, toujours le sourire, etc. Et là, je le vois qui fait des siestes après sa chimio, qui dort pendant 24 heures. Enfin, c'est assez impressionnant. Donc, avec mon frère, on s'est dit qu'on allait passer du temps avec lui un week-end sur deux. Le but, c'est de le soutenir moralement, c'est de l'aider, c'est de pouvoir essayer de faire à manger pour lui, l'avancer dans des tâches, qu'il se sente pas trop tout seul. Et en fait, là, j'ai découvert avec mon père une des bases de mon métier, qui sont les soins relationnels. Le fait d'accompagner quelqu'un, de lui parler, de prendre soin de lui, de passer du temps, en fait, c'est déjà du soin. Je le pousse, je le motive, je dis que ça va bien se passer, il faut se battre, mais dans tous les cas, il faut faire confiance et il faut suivre ce que les médecins disent, continuer le bloc du chimio, il faut y aller, quoi. Je suis toujours très positif, en fait. Le constat de rémission arrive, mon père va mieux, le bloc de chimio est terminé, il s'en est très très bien remis, et à l'heure d'aujourd'hui, il s'en est remis étonnamment vite. Je suis en terminale, les week-ends, je pars en compétition, j'ai mes entraînements la semaine, j'ai mes amis, j'essaie toujours de garder aussi, de conserver ma vie, mais je me remets un peu la tête dans l'école. Je passe mes épreuves les unes après les autres, et en fait, je finis par avoir mon bac mention bien. Quand j'ai eu mon bac, on est en 2018, post-bac, on doit faire des choix pour les études supérieures. Et moi, je me dis, je vais faire infirmier. Au moment où je postule, c'est la seule idée en fait, de poursuite d'études que j'ai. Ça fait écho à mon père, ça fait écho à moi quand je suis passé à l'hôpital, ça fait écho aux discussions que j'ai eues avec un professeur d'anglais en Guyane à l'époque, dans le collège où j'étais. C'est un professeur qui m'a beaucoup rassuré sur ma vie, surtout mon futur. Et en fait, un jour, il me pose la question, il me dit, mais là, t'es au collège, c'est bien, mais plus tard, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? J'avais répondu que infirmier c'était un métier qui m'intéressait bien, mais je savais pas du tout ce que c'était infirmier. Et en fait, dans son regard, j'ai vu que c'était quelque chose où il m'a dit « Ah ouais, c'est un beau métier, c'est super ». Il m'a dit « Mais en plus, ça tirait super bien, il faut vraiment que tu continues là-dedans ». Du coup, peu de temps après, en fait, j'en avais parlé à mes parents, et mes parents étaient là « Mais ce serait vraiment un métier qui tirait très très bien, et on t'encourage à fond là-dedans ». Je voyais que c'était quelque chose qui les rendrait sûrement fiers, quoi. Tous ces moments-là où je me dis, en fait, j'ai une idée qui pousse en disant, infirmier, c'est un chemin qui est possible et qui peut se faire. Et les deux liés ensemble, je suis devant cet ordi, en train de mettre les choix pour les vœux, pour ma vie. Et je me dis, mais pourquoi j'ai envie de devenir infirmier? J'ai vécu plein de choses qui me font dire que ça peut être une bonne idée, c'est quelque chose qui va marcher, donc je vais y aller. C'est l'évidence. Une fois le bac en poche, je postule pour mes écoles. Et en même temps, je prépare mes concours infirmiers. Je trouve du boulot, je travaille sur 2 cliniques en même temps et en même temps de préparer mes concours du coup. Je suis ASH, c'est agent de service hospitalier. Je fais le ménage dans les services. Je rencontre pour la première fois des patients, mais là j'ai une blouse blanche. Je passe de l'autre côté et je prends plaisir en fait à aller au travail tous les matins, à me lever tôt. Je distribue les repas. À côté, je faisais le ménage où j'étais à l'accueil et je répondais au téléphone pour les patients, les rendez-vous, les consultations, etc. C'est ce qui m'a permis d'avoir ce premier contact en fait avec les patients et c'est ce que je voulais, c'était voir vraiment l'intérieur des services avant de rentrer en école d'infirmier et de devenir soignant. Et en fait, juste, j'ai adoré. Chacun a son métier, chacun gère sa patientèle dans son prisme de travail. Un orthophoniste, il va gérer tout ce qui est allocution, un infirmier, il va gérer les soins. La personne qui va faire le ménage, elle va faire en sorte que tout le service soit aseptisé. Tout le monde a son rôle en fait. Mon rôle à moi, je sais que je vais rentrer en école d'infirmier, donc c'est de me dire, ok, comment je me sens dans un service, comment je me sens avec les patients, et je me dis, ok, en fait, je pense que vraiment, il y a moyen que ça me plaise. Le jour des concours arrive, et on arrive dans un endroit immense. C'est énorme, c'est une fourmilière. Je suis complètement noyé dans la masse. On rentre dans des immenses hangars avec plein de lumières, des néons. C'était des couloirs de table avec une feuille, un stylo au milieu, et juste des tests et à passer là. Et donc, moi, j'avais quand même très peur. J'ai passé le concours, et puis en fait, 6 mois plus tard, je suis rentré en école. Je rentre en école d'infirmier en septembre 2019. La formation, elle dure 3 ans. Sur les 3 ans de formation infirmière, c'est 1 an et demi de théorie, 1 an et demi de pratique, mais qui sont mixés. C'est assez prenant et physiquement fatigant. T'as des moments où on se sent bien, des moments d'euphorie, et en fait, toute la promotion, on vit ça tous ensemble. Et il y a un jour où on arrive à la fin, et il y a quelqu'un qui nous tend un diplôme en disant, voilà, vous êtes infirmier, vous avez le droit d'exercer. Après avoir vécu tout ça, c'est quand même assez beau. Mon père était à ma remise de diplôme et j'avais une amie qui était dans ma formation et en fait elle reconnaît mon père parce que 4 ans avant elle était aide-soignante dans l'hôpital, dans le service où il y avait mon père qui avait été hospitalisé. Et en fait elle s'était occupée de lui pendant qu'il était hospitalisé. Elle avait repris les études, elle était devenue infirmière, elle n'était plus aide-soignante. Et elle était diplômée le jour où il y avait moi, mon père, j'ai fait la même formation qu'elle et mon père était là, mais c'est incroyable. Enfin franchement c'était une belle cérémonie. On est arrivé, on était des enfants, on ressort, on est soignant. Je suis vraiment content d'exercer ce métier aujourd'hui. J'apprends tous les jours, il y a des choses que je découvre tous les jours, il y a plein de spécialités. Une fois qu'on est efficace et qu'on est bon dans un domaine, et bien juste changer de domaine. Moi par exemple, je fais de la réanimation aujourd'hui, demain je vais en cancéro, je recommence à zéro. C'est ça qui est super bien avec ce métier d'infirmier, c'est qu'effectivement en fait, tu peux changer de secteur complètement, tu peux aller en pédiatrie voir les enfants, tu peux aller en néonat, ça veut dire avant même qu'ils soient des enfants. On peut aller chez les jeunes, chez les personnes plus âgées, on peut faire du palliatif, on peut faire de la naissance, de la mater, de la psychiatrie, enfin voilà, on peut faire vraiment énormément de choses. En termes d'évolution, c'est quand même assez intéressant de pouvoir toucher à plein de secteurs différents en fait. Aujourd'hui, je travaille en réanimation neurochirurgicale. Le rythme, c'est assez soutenu, ça va carrément à 1000 à l'heure. C'est assez prenant, il faut être efficace, il faut aller vite. Forcément, du coup, avec ça, on vit beaucoup d'émotions et en fait, on a une équipe derrière qui nous soutient. C'est pas un infirmier qui prend un patient, c'est une équipe qui prend soin de tous les patients. Et c'est ça, en fait, que j'aime, c'est replacer vraiment l'humain au centre de tout ça. Nous, on soigne des humains, on soigne pas une maladie. Surtout en réanimation, il y a tellement de tuyaux, il y a tellement des cathéters, des sondes d'intubation, des choses comme ça. L'humain est un peu perdu en tout ça et en fait, il faut réussir à rester le plus humain possible. Et en fait, on vit des super histoires. On sauve des gens, on récupère des patients qui arrivent dans un état critique grave et qui repartent sur leurs jambes. On voit des familles nous remercier en disant que voilà, on a sauvé leurs proches. Et en fait, c'est là où on se dit, oh, en fait, ça a du sens. Je suis fier de ce que je fais, comme je pense tout métier prenant, parce que c'est un métier passion. Je suis fier de ce que j'ai pu faire, je suis fier d'où je viens, du départ de Cayenne, et je pensais pas du tout arriver et vivre ces choses-là en partant de Gun. Aujourd'hui, mes parents, quand j'en parle, ils sont vraiment très fiers de moi. Ils m'en parlent tout le temps. Je pensais pas du tout que ça irait jusqu'ici. Au début, ça partait quand même plutôt mal. Et puis, en fait, on va y arriver. Fonce, quoi. Moi, j'ai toujours évolué avec un peu cette réflexion-là en me disant, bah voilà, de toute façon, j'ai rien à perdre, quoi. Faut avancer, il faut tenter. Et je ferai toute ma vie, ça sera ça. Hein.
Merci d'avoir écouté cet épisode d'Histoire d'Hospitalier. La série de podcasts de la Mutuelle Nationale des Hospitaliers, réalisée en partenariat avec Chérie FM. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager et abonnez-vous pour être certain de ne pas manquer les prochaines histoires. Histoire d'Hospitalier est disponible sur le site et l'application Chérie FM, sur le site mnh.fr et sur toutes vos plateformes d'écoute préférées.